Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
Nous construirons l'avenir avec nos imaginaires poétiques. Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui d'écouter l'interview de Hélène Dorion. Elle était présente à Orléans ce mercredi 17 avril 2024 à la librairie des Temps modernes. Elle est revenue autour de deux œuvres majeures de sa composition, Pas même le bruit d'un fleuve, il s'agit d'un roman, et Mes forêts, il s'agit plutôt d'un recueil poétique. Hélène Dorion est connue internationalement tant dans l'univers québécois de la littérature que celui de la francophonie. Je vous propose d'écouter son interview qui a été menée par Cyril Poncet. Il est enseignant à Orléans et elle nous développe assez longuement d'ailleurs son approche de la poésie. Et je ne peux que vous inviter bien sûr à lire ses œuvres tant elles sont poétiques et tant elles peuvent justement nourrir ces imaginaires au fond de nous et que nous ne serons pas seuls à partager grâce à des artistes tels que Hélène Dorion. Je vous propose donc d'écouter son interview dans laquelle elle revient longuement sur son approche de la poésie. Bonne écoute.
Comment êtes-vous devenue écrivaine, comme on demande à un musicien? Comment êtes-vous devenue musicien? Et on peut raconter des études, on peut raconter des lectures, on peut raconter un parcours. Mais je pense qu'il y a, en tout cas dans mon cas, des événements de vie qui sont venus, j'allais dire, choquer ma conscience. Ébranler quelque chose qui, habituellement, va de soi. Et à cela, en fait, c'est sûr, à ce moment-là, c'est la conscience de la fragilité, mais plus encore qu'on est de passage. Donc, il y a une fin, il y a quelque chose qui va se terminer. Et puisqu'il y a quelque chose qui va se terminer, qui est humain, eh bien, moi-même, je suis dans ce fleuve de l'éphémère. Et bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien sûr, je ne suis pas devenue écrivain à 6 ans. Tout ça travaille très longtemps, des années en fait. Il y a ensuite un rapport au langage. Il y a d'autres événements, bien sûr. Mais je pense que ces événements, pour moi, ont été fondateurs. C'est-à-dire qu'ils sont venus ébranler une conscience tranquille qui jusque-là, bon, comme tout enfant, j'imagine, vivait dans un courant continu. Mais tout à coup, il y avait la mort. Et c'est sûr que tout ça, c'est vraiment arrivé en même temps. C'était vraiment 63, l'empoisonnement de mon père, ça c'est vrai, je le raconte vraiment. Et j'étais vraiment seule avec lui. Je le voyais de plus en plus malade et ma mère, ma sœur n'étaient pas là. Donc, il y a quand même quelque chose où on se dit, bah, tiens, il y a quelque chose là qui m'échappe et qui peut s'éteindre. Et l'assassinat de Kennedy, bah, je suis de cette génération qui a eu l'assassinat de Kennedy. Ce n'était pas parce que c'était Kennedy, évidemment, à l'âge où j'avais, mais c'était parce que tout à coup, la mort pouvait entrer et qu'un être humain pouvait provoquer la mort d'un autre être humain. Donc ça, pour moi, c'était vraiment, vraiment, ça a été une autre manière d'être vraiment choquée. Donc pour moi, c'est plus ça, et sans doute que ça détermine une manière d'écrire. On parlait tout à l'heure de l'écriture, et pour moi, l'écriture est vraiment une manière de dialoguer avec l'être humain, avec ce que nous sommes comme être humain. C'est pas quelque chose d'intellectuel, je cherche pas, et puis c'est pas du tout un jugement par rapport à d'autres types d'écriture, mais moi, l'écriture, pour moi, j'en ai un rapport très, très humain. Ce que j'interroge fondamentalement, c'est la beauté et la complexité d'être au monde, d'être là, de notre présence. Qu'est-ce qu'on fait du temps qui nous est donné? Comment on se relie à soi-même? Comment on se relie aux autres? Qu'est-ce qui nous fonde? Et pour moi, ce sont les questions vraiment principales là, qui sous-tendent ma démarche depuis le tout début.
En fait, le terme qui revient, c'est le terme de vertige que vous employez à nouveau juste après le passage que j'ai lu tout à l'heure. quand vous parlez en fait de d'autres expériences fondatrices, mais qui sont plus d'ordre intellectuel, qui touchent à la formation intellectuelle, vous parlez de la philosophie que vous avez étudiée, et puis vous parlez aussi d'un premier choc littéraire, peut-être.
Camus. C'est un peu la même chose. Camus, c'est le mythe de Sisyphe. Donc, le mythe de Sisyphe, qu'est-ce que c'est sinon la question de l'existence? Quand la pierre roule et redescend, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, ça, c'est tous les écueils de la vie, c'est les vagues, c'est les vents forts, c'est que la vie n'est pas cette espèce de long fleuve tranquille, sans courant, sans marée, et on ne fait que s'y baigner. Quoique peut-être on peut le faire aussi, mais moi, ça n'a jamais été mon cas. Donc, Camus est venu aussi poser la question, une question fondamentale, qui est sans doute à la fois pourquoi vivre, mais plus fondamentale encore, comment vivre. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette pierre qui redescend? Pour moi, c'est plus ça. C'est un comment vivre. Et la capacité qu'on peut avoir de reprendre la pierre et de l'amener vers le sommet, pour pas juste pour remonter la pierre, mais pour voir encore une fois qu'est-ce qui se passe quand on est au sommet. Parce que de là, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on contemple un horizon, on voit la beauté. Donc, il y a tout ce qui se passe aussi au sommet de cette montagne quand on remonte. Et pour moi, c'est pas l'enjeu de la résilience. On en parlera sûrement avec mon roman. Je survalorise pas la résilience. C'est pas cette question-là qui est posée pour moi, et je fais pas de la résilience la valeur suprême. C'est pas de remonter la pierre qui compte. C'est comment on le fait, qu'est-ce qu'on en fait quand on est au sommet, à quoi on s'attend, etc. C'est tout ce qui entoure ça, en fait.
C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est de l'ordre de la liberté, peut-être du sens qu'on décide de donner à sa vie, mais c'est peut-être même encore dit de manière un peu grandiloquente. Là, quand je parle de sens à donner à sa vie, c'est peut-être même plus modeste que ça, j'ai l'impression, non?
Je dirais, pour moi, c'est le sens qu'on donne à chaque journée. Chaque journée qui nous est donnée, le temps qui nous est donné, qu'est-ce qu'on choisit d'en faire? Et la liberté, c'est assez fondamental pour moi. Un jour, on m'a demandé quel est le mot le plus important pour vous. J'étais absolument certaine de répondre l'amour, mais en fait, j'ai répondu la liberté. Et sans doute que l'un est tributaire de l'autre. Et c'est vrai que c'est la liberté, parce qu'être libre, puis évidemment, il y a tous les sens au mot liberté, il y a tous les enchaînements possibles et impossibles, il y a des choses qu'on peut, il y a des choses qu'on ne peut pas, il y a des données de départ, il y a tout ça. Mais il y a quand même une sorte de... Où est-ce que je pourrais être davantage libre? Et ça, cette question-là, je pense, peut se poser et s'articuler de différentes manières. Mais c'est vrai que c'est important, je pense.
D'accord. C'est intéressant que vous citiez Camus, parce que la grande figure de l'existentialisme que vous avez étudiée, je crois, la figure tutélaire de l'existentialisme, surtout en France, c'est Sartre, qui écrase tout. Et Camus, il a souvent eu la réputation pour nous d'être un philosophe pour classe terminale. Ce que je constate... Alors...
Ouais. Mais moi, j'aime bien les deuxièmes. Oui, ceux qui sont un peu derrière, ceux qui sont un peu oubliés, ceux qui n'ont pas le devant de la scène, je trouve ça intéressant. C'est sûr, Sartre, l'être, le néant, j'ai lu la nausée, tout ça. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose chez Camus, une sorte de, j'allais dire, de tendresse, une autre vulnérabilité, quelque chose, une autre forme de sensibilité qui, en tout cas, moi, m'a davantage... rejointe, ou peut-être que j'ai abandonné l'être et le néant à la page 867, je me souviens pas.
C'est déjà beau d'être allé jusque-là, bravo.
Oui, j'exagère peut-être aussi. Mais oui, alors que Camus, bon, dans les questions qu'il pose, dans la solidarité, dans le lien, dans l'amour, dans ça pour moi, c'est peut-être le contraste entre l'intellectuel, le grand intellectuel, et celui qui est vraiment là, enraciné dans la vie, avec toutes les imperfections, avec toutes les questions, avec toutes les failles, avec tout ce qui est là. Ça pour moi, c'est une matière, là, c'est de l'argile plus, peut-être plus vivante encore.
On évoquait tout à l'heure, juste après qu'on se soit rencontrés, la question de l'amateur, enfin de la figure de l'amateur. Il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là, parce que finalement, Sartre, c'est le philosophe consacré, académique, même si ça a été aussi un grand rebelle, mais aussi une institution.
Oui.
Camus, presque un outsider, en fait, si on peut dire.
Oui, une manière d'être peut-être insoumis aussi, de tracer son propre chemin dans sa propre liberté, d'être en dehors des courants. Sartre a fondé quand même ce courant. Et oui, sans doute qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, oui.
D'accord. Alors, on va quand même parler de vous aussi. On ne va pas parler que de Camus. Non, c'est important ce que vous le mentionnez. Et il me semble qu'on en parlait aussi tout à l'heure. Moi, j'ai pensé en lisant le récit de ses expériences fondatrices. Alors, on parle des expériences intellectuelles. La lecture de Camus et l'espèce de révélation qu'elle a suscité. Moi, j'ai pensé en fait aux premiers articles critiques de Roland Barthes sur Camus. Je vous le disais tout à l'heure, qui met l'accent sur l'inscription dans le monde, en fait, l'inscription d'un corps dans le monde. Et le tout jeune Barthes critique en fait écrit des choses comme ça. Il y revient à la fin de sa vie dans le cours sur la préparation du roman, en particulier dans les premières séances qui très paradoxalement sont consacrées à l'écriture poétique, alors que c'est quelqu'un qui s'est pas du tout intéressé à la poésie dans ses œuvres les plus connues, dans la grande période structuraliste, quoi. Et en fait, moi, je retrouve ça dans Mes forêts. Je retrouve cette question de l'inscription d'un corps dans le monde. Peut-être c'est une bonne manière de présenter les choses, je sais pas.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, pour moi, ce qui est important dans la poésie, c'est d'en faire une expérience immédiate. C'est vraiment d'entrer dans le poème comme notre corps habite le monde. Et c'est un langage, évidemment, qui est un peu décalé par rapport au langage habituel, d'où une autre manière, en fait, non pas, même pas d'aller vers le poème, mais de se laisser rejoindre par le poème. Quelque chose qui est de l'ordre de la disponibilité, de l'écoute. On parle beaucoup de l'expression poétique, mais pour moi, je préfère parler d'écoute poétique. La poésie n'est pas quelque chose qu'on force. On ne force pas la porte de la poésie. On est en une sorte de disponibilité et on laisse le poème nous rejoindre là où il a envie de nous rejoindre. Et c'est ce qui est intéressant, il me semble, en tout cas, c'est qu'on va lire un poème à un certain moment. Et puis à un autre moment, ça va être tout autre chose qu'on va lire. On va être rejoint différemment aussi. Et surtout, je pense, en dehors des codes de compréhension, de la fameuse compréhension où on se dit, parce que bon, la poésie souffre souvent de cette espèce de préjugé où on ouvre un livre de poème, on dit ah, « je comprends pas », on le remet là, et on bannit un genre littéraire entier, ce qu'on fait jamais avec le roman. Personne n'a ouvert un roman puis dit « ah non, je l'aime pas », et bannir jamais lire d'autres romans. Mais avec la poésie, on a cette espèce d'exigence. Et comprendre, qu'est-ce que c'est comprendre le monde? Enfin, je ne le sais pas parce que je ne suis pas arrivée à le comprendre. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait comprendre un poème ou un livre de poèmes de la même manière qu'on va comprendre même un roman, en fait, ou un article qu'on lit, ou même la personne qui nous parle? La poésie s'adresse à nous de manière différente et je pense qu'il faut la laisser s'adresser à nous de manière différente. Il faut la laisser dans sa liberté d'être. Il faut surtout lui permettre de nous déplacer. On parle souvent de la poésie comme un lieu d'émotion. Bien, émotion, c'est vraiment la racine du mot, c'est mise en mouvement. On me dit parfois, mais qui peut lire de la poésie? Mais n'importe qui veut et qui accepte d'être mis en mouvement, c'est-à-dire d'être déplacé dans sa manière de voir le monde, bien sûr, de se voir, de ressentir les choses, de se lier aux autres, de se questionner. N'importe qui peut être confortable dans l'inconfort, va lire de la poésie et accepter cette zone de grisaille qui, de toute façon, est celle qui représente le mieux la vie, qui vit toujours dans le noir et dans le blanc. Il me semble que c'est pas ça. On traverse ces zones de brouillard et le brouillard se dissipe, mais un poème nous donne à vivre toute cette expérience qui est celle d'un être humain aussi. Ce qui ne fait pas du poème un lieu où il y a exclusivement ce qu'on appelle de l'émotion au sens de sentiment, c'est aussi, à mon sens, un espace de connaissance, un moyen de connaissance. Et aussi, pour moi, un livre de poèmes raconte aussi quelque chose. Il y a aussi des choses qui sont racontées. Donc, il y a une sorte de récit dans un livre de poèmes. Et c'est pour ça, je devance peut-être une question, mais que pour moi, la structure d'un livre de poèmes est assez semblable à celle d'un roman, en fait. C'est qu'il y a vraiment un lieu où on entre, il y a vraiment un lieu où on habite et un lieu où on sort. Moi, je construis des livres de poèmes. C'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal à dire recueil de poèmes, parce que quand on entend recueil, on dit recueillir. Bon, on voit souvent les poètes comme des gens qui écrivent des poèmes, qui mettent les feuilles là, puis une fois que c'est bon, je mets ça ensemble, j'envoie ça à l'éditeur. Moi, c'est pas comme ça. Ça veut pas dire que ça existe pas et que c'est pas bien, mais moi, c'est pas comme ça que je le structure. Je fais une proposition narrative aussi. Je dessine un horizon. Ce qui ne veut pas dire, par ailleurs, qu'on ne peut pas ouvrir, je vais le faire tout à l'heure, ouvrir le livre et lire un poème, point, ou encore lire une section, point, ou trois, quatre poèmes. Non, c'est une proposition. On va le faire dans le roman aussi. Vous allez lire tout à l'heure des extraits, vous n'allez pas lire tout le livre. Donc, on peut, de la même manière, mais pour moi, c'est assez proche. Un livre est à mon sens, en tout cas quand j'écris, quelque chose de vivant qui tient à la fois, oui, de l'émotion, de la réflexion et de la narration. Et dans mes différents livres, il y a c'est une question de dosage, qu'on appelle ça récit, roman. Bon, ça, c'est carrément des poèmes, bien sûr, mais je pense pas que pas même le bruit d'un fleuve soit éloigné d'une dimension qu'on pourrait dire poétique du travail sur le langage. Parce que pour moi, le langage, peu importe le genre littéraire dans lequel j'écris, c'est une matière. Et c'est une matière qui a quelque chose à dire en dehors de ce que je veux bien lui faire dire. Et c'est ça pour moi qui est intéressant, d'écrire devant ce que je sais. Donc, de défricher avec les mots un chemin qui va s'éclairer à mesure. J'écris jamais sur ce que je sais. Et le livre me dit là où il veut aller, autant que c'est un dialogue, en fait. J'ai peut-être devant ces 10 questions là.
Ben non, mais c'est très bien, c'est très bien. Les gens sont venus vous écouter, pas moi. Non, ça, j'avais lu effectivement dans un entretien que vous aviez accordé à Olivier Barbaran et qui a été posté sur le merveilleux site de l'Éducation nationale pour nous aider, nous, pauvres professeurs, à faire court, que effectivement vous récusiez l'utilisation du terme recueil justement parce que le terme n'insiste pas, comme vous l'avez bien dit, sur la composition très concertée du recueil, sur son architecture, qui en fait est une espèce de proposition de cheminement dans l'œuvre. Soit dit, je note que la table, puisque c'est comme ça que vous l'avez appelée, elle figure à la fin et pas au début.
Oh oui, mais ça, c'est les éditeurs. Ah, ça, d'accord. C'est pas mon travail. C'est comme qui écrit récit ou roman ou tout ça. Ça, c'est les libraires ont besoin de ça parfois pour savoir sur quel étage poser les livres. Mais maintenant, c'est intéressant parce que la littérature fait en sorte qu'on entre dans un livre et je pense qu'on en fait une expérience qui est souvent en dehors même des genres littéraires. Il y a quelque chose qui va venir à nous, qui va être aussi un peu composé, oui.
D'accord. Parce que, pour tout vous dire, moi, j'ai travaillé un petit peu.
On se revoit demain.
Non, mais j'ai travaillé un petit peu pour mes élèves. En fait, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à essayer de donner une forme convenable, disons, à l'explication linéaire, puisque c'est l'exercice consacré, du poème liminaire, que j'ai trouvé extrêmement difficile à interpréter, mais je pense que c'est fait exprès. Et en...
Non. Mais voyons. Mais non, c'est pas fait exprès. J'écris pas pour dire j'espère qu'ils vont pas me comprendre.
Non, alors. Non,
J'espère que ça va être difficile à comprendre, mais non, c'est pas du tout volontaire.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que sur le plan thématique, disons, sur le plan idéologique ou sur le plan philosophique, je sais pas comment il faut dire, il y a des choses qui sont beaucoup plus claires, peut-être plus vers la fin du recueil. Et le premier poème, en fait, est vraiment. Enfin, j'ai trouvé une espèce de choc de lecture. C'est-à-dire que la première fois, je n'ai pas compris grand-chose. Et c'est bien. Et c'est bien, mais ça m'a demandé du travail.
Mais c'est très bien parce que vous savez en commençant que vous allez peut-être être déplacé si vous poursuivez. Mais vous savez, moi, quand je lis n'importe quel poète, c'est pas clair comme ça. Il n'y a aucun poète, puis je ne me compare pas du tout, là, mais ni Apollinaire, ni Baudelaire, ni Rimbaud, et encore moins Rimbaud, que je lis et je me dis « Ah, moi, j'ai tout compris, là, première lecture, voilà. » Ça m'est jamais arrivé de lire un poème et de dire « Voilà, j'ai... » Puis moi, comprendre, non, saisir, est-ce que tout... Non, c'est un champ qui s'ouvre, c'est un horizon. C'est comme si vous voyez, vous regardez, vous contemplez un tableau et vous voulez tout en saisir comme ça. ou une musique. Non, il y a quelque chose qui se déroule dans le temps. C'est une rencontre. On ne peut pas tout saisir de quelqu'un comme ça quand on rencontre et voilà, c'est fait. Non, c'est une proposition de dialogue, de marche, d'avancée, de questions. C'est ça aussi. C'est ça aussi, je pense, la poésie. C'est ça qui peut rendre inconfortable, mais c'est ça qui crée du doute, c'est ça qui pose des questions. Mais encore une fois, je le répète, mais je veux dire, la vie, c'est ça aussi. C'est jamais on voit quelqu'un, puis en 10 minutes, on dit « Ah, moi, j'ai tout saisi de cette personne ». Ou même, moins que ça, moi, je me souviens quand j'étais même adolescente ou jeune adulte, comment, par exemple, m'est venue une sorte d'attirance pour le langage. Rapidement, ou en fait très tôt, mais pas si tôt, mais quand même assez tôt, en parlant avec les gens, je me suis rendu compte qu'on utilise les mêmes mots, on se parle, on devrait se comprendre. Mais ça ne marche pas comme ça. Il n'y a aucun mot dans ça que vous ne comprenez pas, je suis sûre. Vous avez sûrement encore bien plus de vocabulaire même que moi. Mais ça ne marche pas comme ça. Le langage, c'est quelque chose d'opaque. Je pense qu'on fait vraiment semblant que c'est quelque chose de complètement transparent. Puis quand je dis maison, arbre, peu importe, ben oui, on se comprend. Mais non, on peut parler très simplement avec quelqu'un et se rendre compte, parfois des années plus tard, franchement, il n'a rien compris de ce que je lui ai dit, ou on se parle et c'est vraiment non, c'est impossible. Donc, ce n'est pas si simple. Le langage, même le plus simple, le plus banal. Et moi, je sais que j'ai ressenti ça très tôt. Et c'est aussi pour ça que j'écris, je pense, dans des mots assez simples. Je trouve ça déjà complexe avec des mots simples qu'on connaît. Mais pour moi, le lieu de la littérature, c'est celui où on revisite ce qu'on croit connaître et souvent ce qu'on croit comprendre. Ça m'est arrivé dans l'écriture de mes forêts. Je vis en forêt depuis... Peut-être, j'ai vécu dans les Laurentides d'abord, un autre type de forêt, et maintenant en Estrie. Et ça, c'est arrivé autour de 2020 à peu près. Je rentrais, j'avais écrit, pas même Le bout d'un fleuve a été écrit presque, en fait, tout juste avant. Je terminais pas même Le bout d'un fleuve, j'ai écrit les premiers poèmes de mes forêts parce que j'étais à Banff, en résidence d'écriture, quand j'ai écrit pas même Le bruit d'un fleuve. Et quand je suis rentrée, ben, c'était la pandémie, c'était le confinement. Et moi, j'étais vraiment dans la forêt et je me suis rendu compte que j'étais avec ces êtres confinés, encore plus que nous, que sont les arbres. Et je me disais, ben oui, moi, je connais les arbres. Ça fait tellement longtemps que je vis en forêt, je connais ça, la forêt. Mais en m'arrêtant, comme la vie nous a arrêtés à ce moment-là, j'ai regardé, j'ai ressenti et j'ai eu envie de revisiter à travers l'écriture, qui est mon mode de sensation. À travers l'écriture, j'ai eu envie de revisiter ce que je croyais connaître. Et je pense que c'est le rôle de la littérature, en tout cas en partie, pas que, mais en partie, de nous inviter à revisiter et à questionner ce qu'on croit connaître et parfois ce qu'on croit comprendre aussi. Donc pour moi, ça fait aussi partie de cette démarche d'apprivoisement du monde et de notre présence au monde, de questionner des évidences ou ce qui paraît évident, en fait.
Ben, je ne vous cacherai pas que tout ce que vous dites à propos d'Apollinaire, de Rimbaud, des poètes, disons, consacrés que vous avez cités, je le partage. Enfin, moi, j'ai toujours ressenti ça. Alors, la grosse différence, quand même, et là, c'est le professeur qui parle, c'est qu'en fait, tous les noms prestigieux que vous avez cités sont quand même ensevelis sous une tonne de gloses. Il y a comme des kilomètres de bibliothèques qui sont écrits sur chacun d'entre eux. Et on les a tous plus ou moins étudiés à l'université. Donc on est en terrain de connaissance et on est plus ou moins rassurés. Nos élèves, sans doute moins. Moi, si j'ai choisi d'étudier votre œuvre, que je ne connaissais absolument pas avant, c'est justement pour être... Alors, à égalité avec mes élèves, ce n'est pas possible, bien sûr, parce que j'ai lu un peu plus quand même. Mais n'empêche que cette espèce de vertige, en fait, face à un texte inconnu dont je ne comprends pas le sens, en fait, dont je ne peux pas avoir de saisie globale, en fait, parce que instruit comme tel par l'institution, bah, en fait, c'est rafraîchissant pour un prof, quoi. Donc merci.
Non, merci à M. Barbaran aussi. Oui, mais c'est ça qui est beau aussi, et je le vois quand je rencontre aussi des élèves et des professeurs. Ce qui est intéressant, c'est que tout à coup, on sort du rapport d'autorité pure en disant, ben voici, je comprends tout à fait, je vais vous dire ceci, cela, parce que j'ai lu tous les livres de et tous les livres sur. Et là, tout à coup, il y a aussi une autre forme de dialogue entre les professeurs et les élèves. En tout cas, c'est ce que je constate jusqu'ici. Et ce dialogue-là, ben, incite les élèves aussi à une forme d'approche différente, sans doute de confiance aussi dans leur propre lecture, dans leur propre expérience du monde à travers la littérature. Et je vous disais aussi... les professeurs qui enseignent mes forêts se ressemblent en un sens. C'est justement des gens qui sont capables d'aller vers cette zone de risque. Et moi, je trouve ça vraiment très beau. C'est des gens qui se ressemblent, mais qui me ressemblent par le fait même. Donc, ils ressemblent à ce qu'ils enseignent. C'est un accord qui est quand même fondamental dans l'enseignement et dans la transmission. En plus de la ferveur, parce que tout à coup, il y a quelque chose de différent, de nouveau, qui invite à d'autres formes aussi d'apprentissage pédagogique. Donc,
j'ai vécu récemment une expérience avec un élève qui m'a frappé, parce que j'avais demandé aux élèves en fait, de rédiger eux-mêmes un poème en fait, au moment de leur lecture de votre livre. Je vais éviter le mot recueil, j'ai compris, c'est le mot tabou. Et en fait, un élève est venu me voir et m'a donc montré ce qu'il avait écrit en me disant est-ce que ça va. Alors écoutez, je n'en sais rien, je ne vais pas l'évaluer comme un commentaire de texte ou une dissertation. Je regarde et je dis écoutez, avant même de lire, en fait, ce qui est très frappant, c'est que vous avez composé quelque chose de très régulier, de très classique dans la forme. C'était versifié, c'était rimé. Je m'en étonne parce que moi-même, ça ne me viendrait pas à l'idée. Et l'élève me dit mais enfin, la poésie, monsieur, c'est ça. En tout cas, c'est ce qu'on nous a appris au collège. Donc c'est-à-dire que ça, donc des rimes régulières, voilà, des strophes isométriques, enfin, voilà, je crois que c'est le terme.
Mais c'est beau que ça brise justement l'idée qu'on a de la poésie, parce que si on veut que les jeunes lisent et choisissent la poésie pour les accompagner aussi dans leur vie, il faut leur dire qu'il y a cette liberté, il y a cette forme libre aussi, parce que ça dit pas simplement qu'il y a un cadre, une structure très déterminée, mais que la liberté d'expression tient aussi à la liberté de parole. Donc, il y a aussi cette manière d'être avec la langue, avec l'écriture aussi. Mm-hmm. Mes forêts sont de longues traînées de temps. Elles sont des aiguilles qui percent la terre, déchirent le ciel, avec des étoiles qui tombent comme une histoire d'orage. Elles glissent dans leur bleu un rayon vif de souvenirs, l'humus de chaque vie où se pose légère une aile qui va au cœur. Mes forêts sont des greniers peuplés de fantômes. Elles sont les mâts de voyages immobiles, un jardin de vent où se cognent les fruits d'une saison déjà passée qui s'en retourne vers demain. Mes forêts sont mes espoirs debout, un feu de brindilles et de mots que les ombres font craquer. Dans le reflet figé de la pluie, mes forêts sont des nuits très hautes. Il fait un temps de foudre et de lambeaux, d'arbres abattus au-dedans de soi. Il fait pluie maigre, un temps de glace et de rêves qui fondent dans le labyrinthe des miroirs. Le dos courbé, le poids des silences. Guerre, famine, triste dureté. C'est seulement l'hiver sur l'écran d'aujourd'hui s'annoncent les orages de demain. Des chiffres, pour ne rien dire de l'inquiétude qui brûle nos mots. Lettres échevelées, bientôt cassées comme PIB, NIP, FMI. Il fait un temps à s'enfermer dans nos maisons de forêt, avec le bruit secret des nuages qui soufflent de l'autre côté de la nuit. Je n'ai rien déposé au pied du chêne, rien à l'ombre du saule. Je ne me suis adressé ni aux faibles ni aux puissants. Je n'ai pas vu le veilleur à l'entrée de la mer, pas vu le jardinier cueillir le crocus d'un printemps, pas trouvé le miel et la soie. Pas vu le ciel dans l'étang, quelque chose de la solitude, rien qui laisse paraître la déchirure. Je me suis assise au milieu de ces vastes alliés, sans voix, le temps continue de s'infiltrer dans la terre, gorge les rochers. Le pas des animaux s'accorde à la lumière. Par la lenteur du monde, je me laisse étreindre. Je n'attends rien de ce qui ne tremble pas. Mes forêts sont le bois usé d'une histoire que racontent des lunes tenues à bout de bras, quand s'approche la nuit et le hurlement de nos peurs. Mes forêts sont la mise en terre de vagues immenses et de mots que je ne reconnais pas. Elles sont un horizon de corps nus sur le plateau des heures qui bascule soudain. La danse très lente des ombres vient hanter la machine de nos pas. Et quand les brumes s'apaisent, mes forêts sont une poignée de rayons plantés dans le sol durci. Avec le réveil d'un temps, elles sont les paupières tremblantes d'un espoir qui parle une langue d'écorce et de souffle, langue de tous les jours, humiliée, résistante, conquise, invaincue, qui trouble et promet, avec des mots de travers, mots de trop, de peut-être, où les temps se confondent. Mes forêts parlent la langue du fleuve, celle d'algues et de limons, de rivières qui débordent, corps fous de joie ou emportés dans les remous de leur vie. Elles disent nos mains d'obscurité, de frêle beauté, l'effroi qui pèse sur demain. Mes forêts racontent une histoire qui sauve et détruit. Sauve et détruit. Alors, nous rêvons. Comme la sève qui sera, comme le sang de ce qui n'est plus, nous sommes auteurs de montagnes parmi les brumes affolées. Rien ne nous appartient. Nous dénouons, nous réparons ce que nous pouvons. Mes forêts sont un long passage pour nos maux d'exil et de survie. Un peu de pluie sur la blessure, un rayon qui dure dans sa douceur. Et quand je m'y promène, c'est pour prendre le large vers moi-même.
Il y a un des poèmes que vous avez choisi, je l'avais repéré aussi, parce que je voulais en parler, mais en fait, vous l'avez lu, ça suffit à soi-même, en fait. Ce n'est pas la peine que je le glose de manière très maladroite, mais il y en a un qui est très proche. Alors, vous avez lu « Il fait un temps de foudre et de lambeaux ». Il y en a un quelques pages plus loin qui commence comme ça. Il fait un temps d'insectes affairés, de chiffres et de lettres qui s'en mêlent sur la terre mouillée, sur la terre souillée, pardon. Un temps où soufflent des vagues au-dessus des vagues. Bon, je vais pas lire la suite. En fait, ça, ce sont les poèmes qui peut-être m'ont paru le plus accessible immédiatement parce que peut-être portent la trace d'une forme d'engagement, peut-être le terme. Je ne sais pas si le terme vous convient.
De questionnement, sans doute. En fait, c'est une manière de questionner le monde contemporain dans lequel on vit, où la technologie prend évidemment beaucoup de place, où les écrans prennent beaucoup de place, où on ne peut pas, je pense, s'engager dans cette relation avec les écrans, la technologie, tous les téléphones, tout ça, sans questionner qui et maître et qui peut devenir esclave, par exemple. Et c'est pas du tout une condamnation de toute la technologie, des écrans, de tout ça. Moi-même, j'utilise tout ça, et les réseaux sociaux, etc. C'est même pas une critique, c'est vraiment un questionnement pour que les êtres humains que nous sommes, pour qu'on se questionne. Qu'est-ce qu'on cherche à préserver? Bon, évidemment, mes forêts, c'est clair que c'est un lien à la nature que moi, je valorise d'une certaine manière. Parce qu'être humain, c'est faire partie du vivant. Et le vivant, on le sait, est menacé. On parle de la crise climatique depuis quand même très, très longtemps. Là, ça ne fait pas 10 ans, ça ne fait même pas 20 ans. Et je parlais tout à l'heure du moment où ce livre a été écrit, donc commencé en fin 2019 et 2020. Donc, il a été écrit vraiment au moment où il y avait cette crise. Pour moi, qui devrait être une sorte de tournant aussi dans l'humanité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a pu pour la première fois se rendre compte que c'est peut-être pas la Terre qui peut disparaître avant nous, mais peut-être que nous, on est encore plus fragiles que la Terre. Et à ce moment-là, en tout cas, il me semble qu'on a pu en prendre conscience. de notre appartenance au vivant. On a vu qu'en certains lieux, la terre se débrouillait très bien sans nous, que ça allait même mieux quand nous, on n'intervenait pas, quand on était juste calmement dans nos maisons, à se dire, mais pourquoi j'ai une vie si agitée? Et qu'est-ce que je fais de mon temps? Et est-ce que je fais les bons choix? Et comment je vais retourner dans ce tourbillon? Et puis qu'on est peut-être retourné dans ce tourbillon en se disant, bon, ben, je suis retournée dans le tourbillon, mais c'était peut-être pas tout à fait ça que je voulais, mais j'ai passé tout droit. Donc, en fait, c'est des questions pour moi fondamentales que nous posait cette période-là. Est-ce qu'on y a répondu individuellement? Est-ce qu'on y a répondu collectivement? Je pense que tout le monde qui a été vraiment touché, et c'était planétaire, on a pu sentir quelque chose qui voulait, en tout cas, dans l'humanité, entre l'humanité et le monde du vivant, s'articuler, autrement, différemment. Et pour moi, de questionner le rapport qu'on a à tout ce qui est technologique, virtuel, écran, je pense que ça fait partie aussi de ça, de revisiter notre lien à la nature, revisiter aussi notre lien à l'autre, comment on entre en contact avec les autres. C'est sûr que le virtuel est là. On a dit tellement pendant la pandémie que les autres nous manquaient, que le lien physique, de voir les autres, bon, mais comment on a reformulé nos vies à partir de là. Donc, c'est pour moi de l'ordre du questionnement. Et c'est vrai que le monde s'est imposé là où j'étais, dans ma forêt. Il y avait ce lien à la nature, mais le monde s'est imposé avec tous ces questionnements très vifs, très forts. Et c'est d'abord des questionnements personnels. Là. Pour moi, ce que je me posais moi-même, là, c'est des questions que je me pose à moi-même. Il n'y a pas de point de vue, voici ce qu'il faudrait faire. Il n'y a pas de réponse. Mais il faut au moins se questionner pour reformuler tous ces liens-là. Voilà. Donc, c'est cette partie, il fait un temps de, c'est un peu ça. De la même manière que mes forêts reviennent, il fait un temps de, ça revient. C'est un peu une sorte de leitmotiv aussi.
Et vous avez publié, peu après qu'on a appris l'inscription de votre livre de poèmes au programme du bac, vous avez publié une tribune dans le journal Le Monde, au moment où les forêts de votre pays étaient en flammes. Il vous expliquait qu'il faut absolument préserver les forêts, il faut prendre conscience en fait, du dérèglement climatique et mettre en œuvre l'action nécessaire. Donc ça, c'est un écrit d'intervention.
Oui, on m'a invité, en fait. C'est vraiment le journal Le Monde qui m'a invité à écrire un texte sur les feux de forêt, qui, les incendies qui étaient vraiment dévastateur à ce moment-là. Et pour moi, il s'agissait dans ce texte, moi je suis pas une femme politique, j'ai pas ces types d'engagement. Moi je suis écrivaine. En quoi je crois? Ben je crois dans la littérature. Sinon je ferais pas tout ça. Et je parlais de la crise climatique et quand même ça remonte là, c'est pas d'hier comme je disais. Mais on dirait qu'on nous abreuve de statistiques. Chaque jour, quand je feuillette le journal, j'ouvre la télé, peu importe que ce soit au Québec ou en France, il est question de quelque chose qui se passe justement dans ce monde du vivant qui est quand même notre maison. Et pourtant, il y a une sorte... on continue comme si rien n'était. Qu'est-ce qui est possible? Peut-être que tout le discours scientifique nous a touchés, mais peut-être qu'on y est devenu indifférent. Moi, je le dis, je crois en la littérature, je crois en l'expérience immédiate du monde. Ce qu'on aime, il me semble qu'on cherche à le préserver, à le protéger. Mais qu'est-ce que c'est aimer quelque chose ou quelqu'un? C'est être lié à cet autre. Et à quoi on est lié dans la nature? Comment on peut se relier au monde naturel? C'est pour ça que pour moi, oui, la poésie, la littérature est un lieu qui peut être constitué, en tout cas une forme, disons, d'engagement. Mais moi, quand j'entends engagement, j'entends je suis engagée, c'est-à-dire c'est vraiment, je pense que c'est Bill Viola qui citait Ibn al-Arabi qui disait « Si tu t'engages dans le voyage, tu arriveras ». Donc, pour moi, l'engagement, c'est dans ce sens-là. Être déjà dans le voyage, dans le premier pas, ben voilà, je vais arriver parce que le but, c'est d'être dans ce voyage-là, dans cet engagement pour le monde dans lequel on vit. Donc, cette tribune disait aussi que s'il n'y a rien qui peut nous atteindre et qu'on a des sortes de... On a des indifférences. Merci. On a des indifférences, mais il faut s'en occuper de nos indifférences. On ne peut pas juste laisser aller ça comme ça et continuer à exploiter toutes les ressources, à faire comme si rien n'était, à calculer la taxe sur le carbone et à faire payer ceux qui polluent. C'est, à un certain moment... Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais oui, moi, je crois qu'on peut lire de la poésie. Parce que lire de la poésie peut faire en sorte que notre rapport au monde change. Et comment on change le monde? Je crois que c'est souvent par le plus petit, par une personne qui change son regard, qui change son approche et qui, par le fait même, va changer l'approche et le regard de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que la littérature travaille. Et je crois dans ce mouvement-là, du plus petit vers le plus grand.
Mais je crois, pour dire de manière peut-être un peu plus théorique et sans doute moins claire que ce que vous dites, mais je vais essayer quand même de le dire autrement, à ma manière. Il me semble qu'un certain nombre d'universitaires aujourd'hui parlent, en ce qui concerne la forme de poésie que vous pratiquez, d'engagement par la forme, qui cherche à provoquer une transformation intérieure chez le lecteur, en fait, à l'engager dans une nouvelle forme de vie. Est-ce que ça vous semble résumer à peu près correctement ce
que... Oui, il faut juste faire attention pour ne pas tomber dans tout ce qui est mieux-être et tout ça. Donc, c'est ça aussi. Non, mais Oui, c'est ça. La résilience aussi, on va en parler avec le roman. Ça aussi, c'est important. C'est qu'il ne faut pas tomber dans ni dans les clichés, ni dans la facilité, ni dans ce qui est... Je pense qu'il faut réinventer des formes d'approche du monde. Et la poésie, forcément, par la liberté à laquelle elle invite, réinvente une forme d'approche du monde. À preuve, tout ce que vous dites tout à l'heure, ça force à une sorte de refaire le lien à la poésie, passer par ailleurs de toutes les gloses, les analyses, tout ce qu'on peut décortiquer, et que finalement, on n'atteint jamais le cœur parce qu'on reste toujours en périphérie de ce qui va faire quoi? Nous rejoindre, nous toucher, nous déplacer, faire en sorte que oui, on est remué, on peut être bouleversé, mais... tout ce qui peut aussi empêcher que ça se passe. Mais à un certain point, je pense que la littérature veut que ça se passe.
Oui, je crois que vous avez écrit quelque part que si on voulait sauver le paysage extérieur, il fallait d'abord transformer le paysage intérieur.
Oui, je crois profondément qu'on ne peut rien changer à l'extérieur de soi sans changer quelque chose à l'intérieur. La preuve, c'est qu'on peut, je pense en tout cas, tout changer à l'extérieur, mais sans que ça change rien à l'intérieur. Alors qu'on change une toute petite chose à l'intérieur et ça va forcément avoir un effet sur l'extérieur.
Je vais peut-être terminer en ce qui concerne le recueil, si vous en êtes d'accord, par une petite question. Dans le dernier poème que vous avez lu tout à l'heure, je crois, il y a un vers, rien ne nous appartient. Le recueil s'appelle « Mes forêts ».
Oui, mais à chaque fois que vous dites « le recueil s'appelle mes forêts », vous dites « mes forêts », donc c'est vos forêts. Donc, voilà, ce n'est pas un possessif, c'est un... mes forêts deviennent vos forêts. Parce que, j'ai lu mes forêts, vous dites « j'ai lu mes forêts », c'est parfait. Si j'avais dit « les forêts », il y a une sorte de distance, « les forêts ». Mes forêts, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la présence. Et pour moi, tout ce qui est de l'ordre de la présence est de l'ordre de l'habitation, de la sensation, de l'émotion. Donc, c'est déjà une autre manière de le dire. Et on parlait des élèves tout à l'heure. Moi, je reçois plein de poèmes d'élèves et je trouve ça magnifique parce qu'ils écrivent « mes forêts sont ». Donc, si j'avais dit « les forêts sont », là, ils regarderaient au loin « les forêts sont ». Non, « mes forêts sont ». Donc, ils entrent déjà. Comment est-ce qu'on peut aller à l'intérieur? C'est des petits sentiers comme ça.
Cette émission est terminée et je vous dis à bientôt.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La rédac pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La rédac pop de Radio Campus Orléans. There's something happening here.
what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Being drawn, nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. A field day for the heat, a thousand people in the street singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going down.
Salsa, rock, lá negra no avante e baila. És varrendo o lugar, sabe todo. Se do sonho e ato, te quero ver. Move na cadeira, move sem parar. Deixa essa negra enlouquecer.
Chega pra lá. Sabe todo, se é do sonho é árvore, te quero ver. Move na cadeira. deixa essa negra remexer.
Samba, samba,
alça samba.
Samba, samba,
sacude negra, se foi pra si.
Samba, samba,
hey, salsa samba.
Samba, samba,
Radio Campus.
Prenez ça, ça dégage.
Radio Campus.
Ok.
Joli.
Thank you.
Yeah.